et y créer 3 usines. Novartis, 23 milliards de dollars sur 7 sites différents. À terme, le groupe dit vouloir couvrir la demande américaine uniquement avec sa production.
Radio G, 101.5 FM.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bienvenue dans cette seconde émission où je donne voix au roman de Pierre Léauté, Je n'aime pas les grands. Nous avons, la semaine dernière, découvert le personnage d'Augustin, qui se rêverait presque grand dictateur malgré sa petite taille. Un Hitler caricatural. Dans ce roman, l'auteur aborde un sujet très sérieux, de manière très satirique. Et merde, c'est drôle. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre, dès maintenant. La dernière fois, nous nous étions quittés avec notre protagoniste qui, ayant réussi à réunir des gens autour de sa cause, se retrouvait face à un manque de fonds pour soutenir son parti des plus petits, le PPP, qui clairement n'aime pas les grands blonds aux yeux bleus. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 7, le dîner. J'acceptais l'invitation à une soirée donnée par Émile Blanquin, producteur de cinéma, dont les récents faits de gloire, le Baobab de Tarzan et Fantomas à la plage, l'avaient enrichi plus que de raison. Quand le majordome ouvrit avec condescendance la porte de l'hôtel particulier, il se fendit d'un « c'est par ici », dégoulinant de morgue. Une actrice de muet à la mode donnait de la voix, assise aux côtés d'un pianiste endimanché. Les convives, un verre à la main, reprenaient en chœur le dernier couplet lorsque j'arrivais au grand salon. Les femmes portaient des toilettes superbes, que l'éclat de flamboyantes pierres rehaussait. Les hommes, eux, fumaient le cigare, engoncés dans leur costume sombre. Le domestique m'abandonna à mon sort parmi cette faune étrange. Le propriétaire des lieux vit mon désarroi et décocha un large sourire. « Ah, monsieur Petit, venez que je vous présente. » Je m'exécutais, gêné. Je me raidis dans un salut bien formel qui fit glousser Pierrette Made, vedette des Trois Mousquetaires, dans lequel elle incarnait la candide Constance Bonacieux. Est-ce vous ce monsieur dont les journaux ne cessent de parler ? C'est un honneur, repris-je, déposant un baiser sur ses doigts cerclés de bagues rutilantes. Le producteur abattit sa main sur mon épaule. Attention à vos bijoux et vos montres, ah ah ah. Les hommes politiques ne font des courbettes que pour glaner quelques billets de banque. Il n'y a guère qu'un acteur pour être pire cabotin. Son bon mot entraîna l'hilarité générale, tandis que je feignis de m'en amuser. Seul un vieillard assis dans un fauteuil près de l'âtre me fixait de ses yeux froids, l'air grave. Les artistes vénèrent le désordre, mais sont friands de rituels. Celui du dîner en était un de taille, et c'est à 20h exactement que les convives s'attablèrent. Je vis, éberlué, des chapons succéder aux homards, les bouteilles de champagne se vider aussi vite qu'elles apparaissaient, tout cela dans le dédain le plus complet pour les restes jonchant les assiettes. Dire que mes propres hommes mangeaient un jour sur deux. « Parlez-nous de votre vie, monsieur Petit. On l'a dit édifiante, » lança l'hôte. Je me levai alors de ma chaise, imposant à tous le silence. « Je ne saurais par quoi commencer, monsieur Blanquin, mais je peux vous affirmer d'ores et déjà que je ne rendrai pas mon dernier souffle avant que nos ennemis ne trépassent. » L'actrice tomba en pâmoisson. Sa voix devint un peu hésitante. « Avez-vous Comment dire cela ? Avez-vous déjà tué un homme ? J'ai fait la guerre, mademoiselle Mad. Mon visage peut en témoigner. Je devine des vétérans parmi nous ce soir. Ils savent le terrible tribut nécessaire à la victoire. Elle passa langoureusement sa langue sur ses lèvres rouges. Votre famille doit être fière de vous. Votre épouse est assurément une femme comblée. Oh, je vous arrête. Mon pauvre père, Dieu et son âme, est mort dans mes bras. Quel saint homme. Et ses derniers mots, j'aurais préféré tomber au champ d'honneur moi-même, Augustin, plutôt que de voir partir mon fils préféré se battre pour la patrie. Mais tu es revenu couvert de gloire. Je n'ai plus aujourd'hui que mes frères au monde. Quel cœur généreux. Ils m'ont offert pâture et ferme, se privant de tout, pourvu que je puisse vivre à leur côté. Hélas, je leur ai soutenu un plus grand destin encore m'attend, et je ne puis l'ignorer. Ils tentèrent bien de me retenir, mais je quittai ma Normandie, résolue à refuser l'innommable. Cette paix qui a tant coûté à chaque village de France, cette infamie qui ne peut effacer des millions de morts et de mutilés, les dommages commis contre nos maisons et nos édifices, et pis que tout, contre notre honneur. Le producteur applaudit chaleureusement, accompagné de tous, hormis le vieillard. C'est à cause de gens comme lui que la haine se répand. Je feignis n'avoir rien entendu. On dit que vous blâmez les grands, sans qui un comédien célèbre à Paris pour sa prestation dans Sherlock Holmes contre Frankenstein. C'est ridicule, pourquoi pas les gros barbus ? Mon sang ne fit qu'un tour. De quel côté êtes-vous donc ? Quelle est votre taille ? Allons, et ne cherchez pas à mentir. 1m70. Oh, vous avez obtenu le rôle de ce détective anglais. Congratulations ! Le visage de Jean Lerey s'assombrit. Non, j'ai décroché celui du docteur Watson. Un parfait imbécile a remporté la tête d'affiche. Plus grand que vous, n'est-ce pas ? Il éclata brusquement en sanglots, sans que rien ne puisse l'arrêter. Oui, un échalas maigre comme un clou. Mais comment avez-vous deviné ? Élémentaire, mon cher Watt. Jean, on ne jure que par les grands désormais. Ah, quelle lubie ! David a tout de même terrassé Goliath. Mademoiselle Mad en soupira d'aise. Cela paraît si simple à vous écouter. Vous êtes si fascinant que je gage que l'on fera un film sur votre vie un jour. La soirée s'écoula ainsi, jusqu'à ce qu'Émile Blanquin me prenne à part. Vous n'avez pas failli à votre réputation. Mes amis ont chacun tenu à contribuer à votre cause. Il glissa dans la poche de mon costume une liasse de chèques, non sans y ajouter un conseil judicieux. Vous savez pourquoi mes films se vendent si bien, monsieur Petit ? Je dépense sans compter pour la réclame. De belles affiches en couleur, les noms des comédiens en gros titres. Il ne s'agit pas de cinéma, mais de politique. Je ne vois guère la différence. Songez à cela, mon jeune ami. Les communistes ont Lénine, le marteau et la fossile. Mais vous, qu'avez-vous à vendre ? Cette question me hanta jusqu'à ce que le fiacre me dépose au coin du Coquet. Une odeur âcre s'en dégageait, tandis que les flammes ravageaient la brasserie de bas en haut, devant le voisinage désemparé. Raymond et quelques courageux opposaient au brasier des seaux d'eau qu'ils jetaient en vain. « Je l'ai vu s'enfuir en courant. Un gros barbu a mis le feu !» répétait à qui voulait l'entendre une petite vieille. Blanquin avait raison, mais je n'avais pas voulu le reconnaître. Pendant que j'étais à parader dans l'atmosphère feutrée de ses appartements, Joseph Gernot, grimé et méconnaissable, déversait sous mes ordres du pétrole sur la façade de notre quartier général. Ce que j'allais vendre ? La peur. Au petit matin, il ne restait du Coquet que des cendres fumantes devant lesquelles reniflait l'Auvergnat. Une pluie sacrificielle vint éteindre les dernières flamèches et je me tenais dans ce désastre, le chapeau vrillé sur la tête. Il n'y aura plus de retour en arrière. Je regardais dûment mon chef de police. C'est vaincre ou périr, monsieur Gernot. Nous ne pouvions végéter davantage dans ce club minable. Que fait-on maintenant ? Rameutez les culottes d'acier. L'opération va commencer et je ne veux plus qu'il fasse du vilain. Joseph Gernot manqua de s'étrangler. N'est-ce pas le moment de frapper ? Prenons le pouvoir par la force. Nous avons toute la légitimité désormais. L'eau coula une longue minute des bords de mon chapeau. Si vous ne contrôlez pas vos troupes, je me passerai de vos services. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léauté. Bonne écoute. Chapitre 8, le parti. L'incendie eut un grand retentissement à Paris. L'affaire fut montée en épingle quand l'unique témoin déclara finalement que on y voyait goutte et qu'il n'était pas si petit que ça, plutôt grand même plus barbu et blond sur les bords. La presse se déchira en deux camps, résolue à s'écharper sur la question des grandes perches. Les anti-perchards crièrent leur révolte en une de l'aurore. Ainsi donc, les citoyens que la nature a davantage dotés sombrent dans le terrorisme. Ce à quoi les perchards contre-attaquèrent dans le très sérieux clérical « Nous voilà ». Que, si les nains se mettaient à être jaloux des plus grands, ils ne pouvaient accuser Dieu de les avoir rendus méchants et acariâtres. Cet épisode peu glorieux fut appelé bien plus tard la querelle de la Toise par les historiens. Qui aurait pu en prédire alors les fâcheuses conséquences ? La querelle démarra sagement. Les classes moyennes et les ouvriers interdirent à leurs enfants de jouer aux nains jaunes. Puis ils boycottèrent les cirques, là où l'on se gossait des plus petits. De l'autre bord, ulcérés de se voir insultés sans cesse, les grands utilisèrent une arme dévastatrice qui fit bien des ravages dans nos rangs. Bien entendu, je veux parler du « qui est là, qui me parle ?» Le premier à avoir usé de cette stratégie diabolique fut le comte de Palaiso, le 3 août 1920. Face à un quidam court sur pattes qui lui disputait un taxi, il tourna avec mépris la tête dans tous les sens et tout haut déclencha les hostilités. « Qui est là ? Qui me parle ?» Beaucoup de coquins imitèrent le comte par la suite et l'on vit des scènes étranges dans les commerces où les petits insultaient les grands qui firent mine de ne rien entendre. « Ah, quel jeu cruel !» Les culottes d'acier, elles, faisaient profil bas. « Eh, nous étions les victimes aux yeux de tous. Je ne voulais point que l'on passe pour les bourreaux. » Il y eut quelques voix pour s'élever contre l'escalade de la violence, mais Dieu merci, il y eut encore moins d'oreilles pour les écouter. La querelle de la Toise trouva son paroxysme avec un perchard qui déclara que les Français ne mangeaient pas assez de soupe. La phrase fut si malheureuse que le cours du chou chuta brutalement. Pire, une nuit, la statue du roi François Ier fut vandalisée à Cognac. On retrouva sa tête dans les latrines publiques. Oui, la contagion gagnait enfin la province. Quant à moi, je tins le premier rassemblement du parti. Grâce à l'argent collecté ci et là, je m'étais mise en quête d'un nouveau quartier général, puisque l'ancien n'était que des combles. La richesse ouvre bien des portes, et celle du Théâtre National de Chaillot ne dérogeait pas à la règle. L'endroit était solennel, et il convenait parfaitement à la gravité de notre époque. Hélas, l'administration et ses tracas peuvent tout de même freiner les plus beaux élans. Le propriétaire du théâtre, un grand hirsute, qu'il l'avait racheté pour une bouchée de pain après la guerre, se pencha sur moi avec un œil d'aigle soupçonneux. « Et sa carte d'identité, il l'a ?»« grogna-t-il quand je la lui tendis. « Vous ne ressemblez pas à la photographie, monsieur Petit. »« Quoi, une blessure de guerre ?»« Oui. Et votre carte d'invalidité ?»« Ah, mais elle n'est pas tamponnée ?»« Ah, mais ça va pas du tout, ça !»« Le tampon, vous l'aurez dans la journée ?»« admettons. »« Et un justificatif de domicile ?»« Ah non ?» Comment ça, il l'a brûlé ? Écoutez, j'ai 10 dossiers qui attendent avant le vôtre et vous ne me paraissez guère sérieux, jeune homme. Et je présume qu'il n'a pas de travail par-dessus le marché. Quoi ? Pas de caution non plus ? Et son papa, il ne peut pas hypothéquer sa maison ? Ah, monsieur Blanquin se porte garant. Ouais. Je vois qui est monsieur Blanquin. Mais il a intérêt à avoir un carnet anthropométrique à jour, le jeune homme. Et un RIB, bien sûr. Le relevé individuel des bonnes manières, vous avez l'œil lubrique ? N'avez-vous jamais fréquenté de maison licencieuse ? Quand l'interrogatoire s'acheva, je me promis deux choses. Passer sous silence mon appartement au-dessus du 133 et faire taire cette grande gigue insolente dès qu'il serait temps. Les lettres d'introduction de mes nouveaux amis rencontrés chez le producteur Blanquin emportèrent les dernières réticences du propriétaire qui me remit les clés de mauvaise grâce. Seul entre ces rangées de fauteuils, je ressentis le poids de ma propre histoire. Joseph Gernot me rejoignit et me salua. « Où en sont les préparatifs ?» lui demandai-je. « 3 jours, c'est bien peu pour rassembler tous vos partisans. » « Alors, disons 2 jours, monsieur Gernot. » Je laissai mon chef de milice comme 2 ronds de flanc. Je ne pouvais pas attendre davantage. Lors de l'inauguration, le théâtre était bondé. Les culottes d'acier frappèrent longuement dans leurs mains. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes durant, les applaudissements fusèrent devant l'état-major du PPP, le parti des plus petits. Un homme, au dernier rang, eut le malheur de s'arrêter le premier. Joseph Gernot, d'un signe discret du menton, fit sortir Manu Militari, l'impudent, par 2 petits colosses. Je rentrai en scène sous les vivas, un médaillon jaune frappé d'un P, épinglé sur le revers de mon costume. Je m'avançai d'un pas décidé jusqu'au microphone, puis ordonnai le silence. Toute la salle se tut comme un seul homme. Les premiers mots grésillèrent. Toute ma vie, j'ai dû faire face à cette question existentielle. Qui veut me nuire ? Quel est mon ennemi ? J'ai vécu les années de ma prime enfance dans une petite ferme de Normandie. Mon père y élevait toutes sortes d'animaux de basse-cour. Aussi, lorsqu'il leur jetait des graines, seuls les plus forts et les plus vigoureux prenaient tout et se gonflaient la panse. Les laissés pour compte et les plus petits venaient picorer ce que l'on avait bien voulu leur laisser après. Les poussins étaient servis les derniers. À la guerre, les grands se partageaient les grades et envoyaient au casse-pipe les troufions, la masse des valeureux sans lesquels pourtant nous n'aurions pas remporté tant de batailles. Qui était assis lors du traité de Berlin à vendre nos colonies à l'Allemagne comme l'on déchire le manteau d'un miséreux en plein hiver? Les grands, des collabos qui nous ont laissé des miettes. Mais chaque jour, les poussins sont plus nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant. Le peuple de France n'est désormais plus leur dupe. C'est le coq qui s'est donné à l'aigle. Eh bien, donnons aux poussins ce qui leur est dû. Mort à ceux qui nous ont déplumés, mort aux grands. Piou, piou. Les culottes d'acier saluèrent et ils pépièrent en plein gosier. Piou, piou. Derrière moi se tenaient coude à coude Blanquin, l'Auvergnat, Gernot et mes autres subalternes. C'est bien la preuve que l'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, murmura Blanquin, narquois, à son camarade de gauche qui s'esclaffa. Je ne vous entends pas, se fâcha tout rouge Joseph Gernot, aux 2 garnements qui blêmirent d'un coup et piaillèrent à leur tour. Piou, piou, piou. Mes frères, l'heure est venue de nous rassembler sous une seule bannière, déclamai-je, le poing brandi droit vers le public en liesse. Des drapeaux jaunes poussins, immenses, tombèrent alors, se dévoilant sous les regards ébahis. Au cœur d'un cercle de plumes tressées à la façon d'une couronne de laurier, mon portrait s'érigeait comme une promesse funeste. Je finirai donc ma lecture de ce roman sur ces piou-piou. Je vous invite à aller découvrir le destin de cette future dictature du parti des plus petits par vous-même. La suite vous attend, avec toujours plus de gueulantes et de tournures de phrases tirées par les cheveux. Et si pour vous, le parallèle à Hitler n'est pas assez clair, sachez que quelques pages plus loin, Augustin atterrit en prison pour « association de nains malfaiteurs » et y écrit un roman appelé « Mon destin ». « Je n'aime pas les grands » de Pierre Léauté, c'est drôle, c'est éducatif, ça a tout d'un grand roman. Édité par le label MU, il est disponible sur le site des éditions Nemos ou directement en librairie. Vous pouvez toujours retrouver les 2 émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr et suivre les prochaines sorties d'émissions sur la page Instagram Voix au chapitre. Nous nous retrouverons pour une nouvelle découverte littéraire la semaine prochaine, une découverte qui nous plongera dans un univers mêlant magie et technologie. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
101.5 FM.